Good evening business, l'invité.
Pour parler concurrence ferroviaire, Alain Gétraud, bonsoir, installez-vous, je vous en prie, directeur général de Le Train. Alors, c'est vous, cette petite compagnie ferroviaire privée qui a l'intention d'aller, alors, peut-être pas concurrencer la SNCF, mais au moins la challenger un petit peu sur...
Petite société, mais grandes ambitions.
Mais bien sûr, sur l'Ouest. Vous avez annoncé il y a quelques heures, donc, vous passiez une commande pour 10 trains à grande vitesse auprès du constructeur espagnol Talgo. C'est le Siemens français, Talgo, ou pas, en quelques mots, on peut résumer comme ça, ou pas
Alors bonsoir. Alors Talgo, c'est une entreprise espagnole.
Hein. Oui.
Voilà. C'est pas une entreprise de la même taille que ce qu'on peut connaître en France comme Alstom, par exemple. Mais par contre, c'est une entreprise mythique. Hein. Ouais. C'est une entreprise qui était le constructeur de la Puerta del Sol il y a une vingtaine d'années. Ouais. Donc c'est un retour en France finalement de ce matériel. C'est un matériel d'un haut niveau de technologie. C'est un matériel de qualité. Talgo, c'est un acteur qui est capable de s'adapter. À un opérateur comme nous.
C'est parfait.
Mais alors votre objectif, c'est donc d'apporter une offre qui soit complémentaire à celle de la SNCF, mais ça se joue sur quoi précisément? Est-ce que ça se joue sur les prix, sur la ponctualité, cette différence? Parce que je rappelle que vous proposez un Bordeaux-Angoulême en 40 minutes contre 1h10 en TER et puis un Bordeaux-Nantes en 3 heures. C'est pas mal.
C'est donc le timing et la ponctualité, c'est ça finalement.
Alors finalement, et vous l'avez bien dit, c'est une offre complémentaire de la SNCF. Cette complémentarité, mais cette rupture finalement, elle s'exerce sur plusieurs champs, sur les destinations, sur les temps de parcours. C'est même moins que ça. Hein. Angoulême, c'est 34 minutes, je pense.
Ah oui.
Voilà.
Vous voulez les challenger ou être complémentaire de la SNCF?
Dans un premier temps, nous, notre ambition, c'est juste d'être complémentaire, bien sûr. C'est de plutôt opérer sur des destinations, sur des segments qu'opère peu ou pas la SNCF. Et en étant agile, en ayant une réflexion sur les villes qu'on dessert et puis en optimisant ses temps de parcours. Sans passer par Paris. C'est ça qui nous fait gagner du temps.
C'est ça qui vous fait gagner du temps.
Un objectif à terme, peut-être, sur le nombre de passagers? C'est quoi, c'est 3 millions de voyageurs?
Alors, comme toute entreprise, il y a un temps d'acquisition de clientèle. Ouais. Donc, on démarrera sûrement sur un volume de passagers qui va avoisiner les 3 millions de passagers pour ce segment Grand Ouest. Et puis, bien sûr, cette acquisition de clientèle, elle devrait monter jusqu'à 5 millions de passagers.
Et mais alors, avec combien de liaisons quotidiennes?
Alors, finalement, ces 10 rames nous permettent d'opérer 50 trains par jour, ce qui est structurant.
10 rames, c'est pas beaucoup. Enfin, on entend dire aussi que vous pourriez racheter des rames à la SNCF.
Alors, effectivement.
Mais qu'il y a un petit litige, voilà, parce que la SNCF dit qu'il y a de l'amiante dans certaines rames, donc c'est pas facile. Voilà, c'est quoi l'histoire exactement, là, avec la SNCF?
Alors, moi, je vais être ici ce soir pour célébrer quand même cette commande, ce qui est important, parce que 10 rames.
Ça vous aidera à grossir plus vite.
9. On aurait pu être présent, peut-être, avant, et l'acquisition de matériel d'occasion reste une belle opportunité. C'est pas un livre qu'on a complètement fermé avec SNCF ou avec d'autres acteurs. Effectivement, il y a des sujets d'équipement, c'est un peu technique, des sujets d'équipementialisation, il y a des sujets d'amiante.
On peut dire que la SNCF freine des cas de fer, sans mauvais jeu de mots.
Non, je ne me permettrai pas de dire ça, mais les processus sont longs. Ouais. Les processus sont peut-être plus longs que pour des entrepreneurs comme nous.
Mais la concurrence sur le ferroviaire, elle a quand même beaucoup de mal à émerger. Alors j'imagine que c'est dû au ticket d'entrée qui est très élevé, parce que forcément, s'équiper dans le matériel roulant, ça coûte cher.
Oui.
C'est ça le principal problème.
Voilà, vous l'avez dit, effectivement, le ticket d'entrée est lourd. L'entrée est élevée, c'est des assets lourds, c'est des assets compliqués à acquérir, hein, les trains. Il faut un niveau d'investissement corporate élevé. Donc, forcément, pour des entreprises from scratch ou start-up, c'est un parcours un peu complexe.
D'où la question, est-ce qu'il doit y avoir des alternatives à la SNCF? Vous allez me dire oui, certainement. Est-ce qu'il peut vraiment y en avoir dans les faits? On voit bien, malgré tout, alors que la libéralisation du ferroviaire est en vigueur depuis quelques années, que ça décolle pas vraiment. Oui, il y a des initiatives du côté de Trenitalia, du côté de Renfe, on en a parlé la semaine dernière. Enfin, ça décolle pas très vite pour l'instant. Est-ce que vous pensez que ça va s'accélérer dans les prochaines années?
Alors, ce qui est remarquable, c'est que finalement, la France est en train de faire la démonstration qu'il y a une envie, qu'il y a une capacité de nouveaux investisseurs, de nouveaux entrepreneurs à challenger le monde du ferroviaire. Ouais. Puis la France ne va pas être quand même le dernier pays européen où il se fait jour de nouvelles compagnies. L'Italie l'a fait avec NTV, Italo. Oui. L'Espagne a été une formidable éprouvette d'expérimentation de l'ouverture à la concurrence et on a des acteurs from scratch comme Irio, Ilsa qui sont nés et qui aujourd'hui sont de vrais acteurs sur le marché.
Mais c'est intéressant cette comparaison avec l'Italie et avec l'Espagne puisque ce sont deux pays qui ont quand même donné pas mal d'impulsion justement à la concurrence. C'est pas vraiment le cas en France.
La France a peut-être résisté un tout petit peu plus longtemps. On avait un opérateur historique qui fait beaucoup de choses, qui opère 14 000 trains par jour, ce qui est colossal. On n'a pas vocation à concurrencer la SNCF sur ces segments, qu'elle opère très bien, mais par contre à amener une offre complémentaire. On manque de mobilité bas carbone, on manque de mobilité en train en France. C'est quand même ça le sujet. Le sujet, c'est d'étendre la part de marché, c'est d'étendre cette part modale du ferroviaire.
C'est ça, c'est d'étendre la part du gâteau, effectivement. Est-ce que vous diriez que les pouvoirs publics pourront en faire plus pour impulser justement cette ouverture à la concurrence? Est-ce qu'on pourrait en faire plus?
Alors, le cadre juridique français, il est finalement assez bien fait en Europe. Il permet à des entreprises d'opérer en services librement organisés, en open access. Et donc, c'est un modèle volontariste. C'est pas au public de tout régir. Moi, je pense que les entrepreneurs peuvent s'emparer du sujet, elles peuvent être force de proposition pour opérer et proposer des offres. Et c'est ce qu'on va faire avec le train.
Ouais. Alors, votre calendrier commercial, si je ne me trompe pas, il a été quand même repoussé plusieurs fois. Est-ce que c'est parce que vous avez eu du mal à vous mettre d'accord avec les deux banques qui sont entrées à votre capital, que sont Crédit Mutuel Arkéa et le Crédit Agricole?
Alors, pas avec ces deux banques, non, puisqu'elles nous soutiennent depuis longtemps maintenant et depuis le début. Elles sont entrées au capital dans cette volonté de dynamiser les territoires, et donc le train est un bel objet pour le faire. Par contre, ça n'y suffit pas, bien sûr, il faut agréger d'autres acteurs financiers, et c'est des temps longs. Le ferroviaire impressionne, hein, c'est technique, c'est spécifique, et peut-être que la France, au niveau investissement, est un tout petit peu longue, peut-être qu'il y a d'autres pays où l'investissement est plus rapide.
Oui, peut-être qu'on ne veut pas trop déranger du côté de la SNCF, surtout dans les temps actuels, ça joue peut-être ça aussi.
Je pense que quand c'est nouveau, forcément, il n'y a pas de modèle, donc pour expertiser les modèles, il faut un peu de temps, il faut aller chercher des expériences à l'étranger, il n'y a pas de référence en France, mais voilà, c'est en train de changer, on en fait la démonstration, et cette capacité à acquérir DIRAM, je pense, est un bon démonstrateur.
Vous nous semblez bien modeste, parce qu'on a tous compris que les DIRAM, c'était pas une fin en soi, que vous alliez revenir à l'offensive, que vous vouliez doubler, que vous aviez plus d'ambition que de simplement titiller la SNCF sur le Grand Ouest. Vous voyez plus loin, franchement, vous dites effectivement, il y a une part du gâteau, et il y a un gâteau qui va s'étendre, donc vous voulez être de cette aventure-là, très clairement.
Alors oui, parce qu'il y a un positionnement sur le marché qui est intéressant. Donc, acquérir juste DIRAM pour convertir le Grand Ouest est une entreprise régionale uniquement, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Il y a déjà une surface minimum de marché à opérer pour être viable. Il y a une taille critique d'acteurs. Et donc, forcément, DIRAM n'est qu'un début. Je nous le souhaite, l'espère. On a des plans de développement et on a vocation à étendre cette offre et à acquérir du matériel supplémentaire.
Et sur le prix moyen du billet, est-ce que justement, pour réussir à attirer ces 3 millions de voyageurs par an, c'est quand même beaucoup. Est-ce que vous allez proposer des tarifs plus attractifs?
Alors là, par contre, il va y avoir compétition, même si on est sur des segments un tout petit peu différents de ce qu'opère la SNCF.
Elle joue déjà cette compétition, on le voit sur les prix de Trenitalia,
exactement,
sur Paris-Lyon, ça se voit, quoi.
Mais cette concurrence sur Bordeaux-Lyon a démontré ce qu'on appelle l'induction, c'est donc le trafic a augmenté, les voyageurs sont plus nombreux à prendre le train. Donc oui, on va challenger les prix, bien sûr, on va chercher un standing assez confort, à des prix très très concurrentiels, accessibles pour tous, avec différentes gammes. On parlera pas de classe, mais on parlera d'ambiance. Voilà, on a complètement revisité l'intérieur du produit. On a une capacité aussi à embarquer des objets de loisirs.
On a vu ça, il y a des vélos ou des planches de surf, on a vu.
Voilà, alors un journaliste m'a dit...
Il n'existe pas la SNCF, je le concède, effectivement.
Pas encore.
Un journaliste m'a dit surfer friendly, biker friendly. Effectivement, venez avec votre vélo, venez avec votre surf, venez avec votre objet de loisir, vous êtes le bienvenu à bord de le train.
Ouais. Vous essayez de faire revenir les jeunes, notamment, qui sont de moins en moins adeptes au train aujourd'hui, au TGV. C'est un des objectifs, ça, clairement, pour vous.
Je pense que les jeunes aiment le train parce qu'ils sont engagés bien sûr pour la préservation environnementale et le train est un formidable outil pour le faire. Donc on a un positionnement qui est clairement loisir. Ouais. Il doit séduire les jeunes, mais les moins jeunes. Et même quand on est business, est-ce que finalement c'est pas sympa de voyager dans un objet de loisir? Est-ce que c'est pas tendance? Et en plus, avec un objet bas carbone.
Bon, ces trains, donc, ils ont été commandés, ils seront livrés et ils commenceront à être lancés sur les rails en 2025. C'est ça l'objectif?
Alors, ces trains Talgo, effectivement, le délai de livraison, c'est un délai en 2025.
Ouais.
On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise et de pouvoir être présent avant avec d'autres synergies industrielles et puis toujours ce volet détention de matériel roulant auprès des SNCF si ce sujet doit se débloquer.
Eh ben, on va suivre votre épopée. Vous qui vous êtes lancé quand même pour lancer une compagnie ferroviaire en 2020.
Il faut être ambitieux.
Il faut être ambitieux. C'était quoi? Vous êtes dit, on va profiter de l'ouverture à la concurrence, on va profiter des faiblesses, des fragilités ici ou là de l'adversaire, de la SNCF. Lancer une compagnie ferroviaire en 2020, quand même, quoi.
Alors, c'est... Le cadre légal le permet. Alors la compagnie s'est même lancée en 2019, donc c'est aussi une opportunité de marché, il faut se le dire.
Bien sûr.
C'est un travail à la fois d'experts, c'est-à-dire qu'il faut avoir une équipe quand même qui est composée de sachants. On a aussi une mixité dans les équipes, donc on s'est beaucoup inspiré de l'aérien, puisque l'aérien a très bien réussi cette ouverture à la concurrence, et donc il n'y a aucune...
Alors avec une mixité pas tout à fait parfaite quand même. dans le domaine aérien, en tout cas.
Oui, tout à fait. Alors, je souhaite que le ferroviaire réussisse mieux. Mais en tout cas, c'est une inspiration. Ouais. Et puis, le train a le vent en poupe, si j'ose dire, parce qu'on volet environnemental. Exactement. Donc, on doit profiter cet élan. Et il n'y a aucune raison qu'on n'y parvienne pas.
Le timing est parfait. Merci beaucoup.
Pour les 10 prochaines rames.
Oui, absolument. Voire plus.
Attendez.
Voire plus.
Non plus. Voire plus. Ah, c'est dit, voire plus. Voilà, bon, on l'a en tête.